Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Belinda Bossouma.
À la une, au moins 20 personnes tuées en l'espace de 2 semaines dans le territoire de Djougou en Ituri et 10 des maisons d'habitation incendiées. C'est ce que rapportent les activistes des droits humains dans cette zone. Nous faisons le point dans ce journal. Congo Central, le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants boycottent l'appel à l'arrêt de travail lancé par l'intersyndicale au niveau national, appel visant à persuader le gouvernement à ajouter 50 000 francs congolais de soins de santé aux enseignants, décision prise à l'unanimité ce week-end à Matadi. Et puis, l'RDC reste inactive alors que ses voisins affichent des ambitions démesurées dans l'exploitation des nappes pétrolières partagées avec l'Ouganda et le Rwanda. L'alerte est de Moïse Aliéguera, chargé d'études au pôle juridique du ministère congolais de l'Environnement. Il est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. En Ituri, au moins 20 personnes, dont des miliciens des groupes armés Codeco et Zaïre, sont mortes en l'espace de 2 semaines dans le territoire de Djougou et 10 des maisons d'habitation incendiées. C'est ce qu'a rapporté samedi le bulletin de monitoring des activistes des droits humains dans cette zone. Selon ces derniers, les exactions des hommes en armes perturbent à nouveau les activités scolaires et socio-économiques dans plusieurs villages en ce début d'année. Martial Kizabiamungu, reportage.
D'après ces activistes des droits humains du territoire du Djougou, environ 12 incursions de miliciens de la Codeco et Zaïre ont été répertoriées dans plusieurs entités des chefferies des Baïmanor et Bagourou, mais aussi dans les secteurs de Banyalikilo et Djatsi. Au cours de ces incursions, 8 civils ont été tués par des éléments de la Codeco et 3 autres par ceux des Zaïre. La même source indique que pendant les accrochages entre l'armée et les assaillants, ces miliciens de la Codeco et 2 des Zaïre ont été neutralisés contre un militaire des FRDC tué. Dans leur rapport, ces activistes ajoutent que 13 maisons d'habitation ont été incendiées par la Codeco, 9 tentatives de viol sur des paysans et de déplacés internes par des hommes armés en errance dans plusieurs entités des Djougou ont également été signalées. Ils plaident pour l'accélération du processus de désarmement de tous ces miliciens qui y sèment la terreur parmi la population pour permettre le retour des déplacés dans leur village. Bougnard, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Les agents du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dénoncent le détournement de plus de 150 000 dollars américains par les responsables du PDDRCS en province. Dans un document qui circule depuis 4 jours sur les réseaux sociaux, ces agents indiquent que ces fonds étaient destinés aux frais de fonctionnement et aux opérations de démobilisation. L'une des personnes mises en cause est déjà aux arrêts au service des renseignements. Enseignement civil, détail avec Martial Kizabiamungu.
Ces agents et cadres du PDDRCS Ituri dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion administrative de leur service par les coordonnateurs intérimaires et son adjoint depuis plusieurs mois. Mauvaise gestion caractérisée selon eux par le clientélisme. Ils disent détenir des informations dont des relevés des comptes bancaires qui justifieraient selon eux la mauvaise gestion dénoncée ainsi que l'utilisation abusive des frais alloués par le gouvernement congolais pour le fonctionnement de cette institution et le soutien des opérations de désarmement et démobilisation des ex-combattants. Les services de sécurité sont déjà saisis de ces allégations. L'adjointe du coordonnateur intérimaire du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Ituri a ainsi été interpellée puis arrêtée par l'Agence nationale des renseignements ANER pour des raisons d'enquête. Contacté par Radio Kapi, le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS en Ituri promet de se prononcer sur cette affaire dans les heures qui suivent. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Lubero s'est réjoui de l'assistance de la population aux militaires et aux Wazalendo qui sont sur les lignes de front. La semaine qui vient de s'achever, plusieurs délégations venues de Béniville et territoire, mais aussi de la ville de Butembo, ont apporté des vivres et non-vivres à ces soldats. Pour le colonel Alain Kiwewa, cela démontre le patriotisme de la population assoiffée de paix qui ne demande qu'une chose, la restauration de la paix pour permettre aux milliers de personnes déplacées de pouvoir rentrer rentrer dans leur milieu d'origine. Le colonel Alain Kiwewa, joint par Guylaine Kassassia.
Nous avons déjà reçu plusieurs délégations qui sont venues nous soutenir, particulièrement nos forces de défense et nos patriotes Wazalendo. Ce sont des gestes très louables de la part de notre population. Cela réconforte également les militaires et cela prouve également l'union, la force de cette population qui est toujours attachée à son armée. Il est très important qu'en ce moment de l'agression rwandaise et ses supplétifs les M23, que nous puissions rester unis. En étant ensemble, nous serons forts. Notre héros, Laurent Désiré Kabila, nous a dit que cette guerre va rentrer de là où elle est venue. Donc, tous ensemble, nous savons que nous allons gagner cette guerre. Il y a eu beaucoup d'articles vivre et non vivre. Et dans le vivre, il y a eu plusieurs sacs de riz, le sac de maïs, de l'eau, des cartons de biscuits, de vaches. Et dans le non vivre, nous avons vu des couvertures, des matelas, des bâches, des goudjots et plusieurs d'autres articles, même des tentes individuelles.
Direction la province du Congo central. Je vous l'ai dit dans les titres, le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants boycottent l'appel à l'arrêt de travail lancé par l'intersyndicale au niveau national dans le but de persuader le gouvernement à ajouter aux enseignants 50 000 francs congolais des soins de santé. Réunis à Matadi ce week-end, les délégués syndicaux représentant les écoles de la province indiquent qu'après des analyses, cette décision d'arrêter le travail à cause de 50 000 francs ne vaut pas la peine. À l'unanimité, ces représentants des enseignants ont décidé de poursuivre les enseignements sur toute l'étendue du Congo central. Par conséquent, ils invitent tous les enseignants de se présenter chacun dans son école. Écoutez à ce sujet Simone Siloulou, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Donc, le bureau de l'intersyndicale nationale a lancé des ultimatums au gouvernement presque dans toutes les presses. Si le gouvernement n'ajoute pas les 50 000 francs, les frais de soins de santé dans nos salaires, ils ont lancé un ultimatum pour l'arrêt des travaux ce lundi. C'est comme ça qu'on a fait appel aux délégués des écoles pour venir parler au nom de tous les enseignants sur le mandat des affiliés. Nous avons analysé la situation, on a trouvé que ça ne valait pas la peine à cause des 50 000 francs qu'on aille en grève. La grande grève qu'on a eue, où on réclamait 500 dollars qui devraient être payés selon le budget 2025, on est arrivé presque à la fin pour que nous ayons quelque chose. Et à Kinshasa, avait stoppé le mouvement sans rien obtenir. Alors, pour 500 dollars, ils se sont désolidarisés. Et pour 50 000 francs congolais, ils veulent que les enseignants aillent en grève. Ici, au Congo central, on a estimé que ce n'était pas important. Donc, nous poursuivons les enseignements. C'est lundi, tout le monde sera à l'école et que les parents envoient les enfants.
Autre nouvelle, la province du Maniema a un nouveau président du conseil provincial de la jeunesse. Lupi Kimanga Trésor a été élu le week-end lors d'une assemblée générale extraordinaire élective à Kindu en présence des autorités politico-administratives. Ce comité de plus de 10 personnes se fixe comme objectif, entre autres, la cohésion des jeunes. On écoute les premières impressions de l'heureux élu Lupi Kimanga au micro de Florence Kizalunga.
Mes impressions sont des satisfactions. Voilà pourquoi nous remercions les jeunes et les autorités qui ont permis que cette assemblée générale extraordinaire élective puisse avoir lieu. Et dans le cadre de notre cheval de bataille, ensemble avec mon équipe, nous allons les amener à bien collaborer avec les autorités. Mais aussi, durant notre mandat, nous n'allons pas sortir si nous ne parvenons pas à avoir des centres de formation, d'encadrement des jeunes sur le plan professionnel et entrepreneurial. Mais aussi, nous allons permettre que les jeunes puissent contribuer positivement à la construction de notre province. Parce que notre province est confrontée à des différentes menaces, des situations inacceptables. Aujourd'hui, nous sommes face à l'insécurité. Notre pays est aussi en guerre. Et donc, les jeunes, dans le cadre de l'éveil patriotique, nous allons les amener à comprendre la situation de notre pays et aussi à ne pas se laisser amener par n'importe quel vent.
Direction la province de Lomami, une femme de 90 ans d'âge est morte calcinée dans sa maison. Le drame est survenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier au quartier Moussampi, dans la commune de Mouenéditou. La société civile déplore ce cas. Le maire de la ville ferroviaire de Mouenéditou affirme que les enquêtes sont ouvertes. Récit des faits avec Esther Ndalafina.
Les témoins affirment que le feu s'est déclaré autour de minuit pendant que la défunte dormait dans sa maison. Les mêmes sources précisent que les efforts déployés pour maîtriser le feu n'ont pas réussi. La pauvre Aimée Manyonga a perdu sa vie dans la flamme. La société civile déplore cet incendie qu'il juge comme acte criminel. Contacté, le maire de la ville de Mouenéditou affirme que les enquêtes sont ouvertes. Rappelons qu'au mois d'août dernier, toujours dans la même commune, une femme d'une trentaine d'années est morte aussi calcinée dans sa maison et sept autres habitations incendiées dans quatre quartiers de la commune de Mouenéditou, dont Tchindundu et Moussaoula. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Par ailleurs, deux morts, deux blessés graves et un véhicule incendié, c'est le bilan officiel d'un accident de circulation survenu samedi sur le boulevard Lumumba à Kalemie. Une Jeep est entrée en collision avec une moto. D'après plusieurs sources, l'excès de vitesse et le mauvais état de la route sont à la base de l'accident. Cependant, d'autres sources parlent de quatre morts. Paulin Munanga, reportage.
Des témoins rapportent que l'accident s'est produit sur le boulevard Lumumba en face de la plage dénommée Coco Beach au bord du lac Tanganyika. Une Jeep qui se rendait en direction de l'aéroport à vive allure est entrée en collision avec une moto qui venait en sens contraire. En perdant le contrôle de son véhicule, le chauffeur a fini sa course dans un portail d'une résidence. Outre le conducteur, la moto transportait deux personnes. Après le choc, le conducteur de la moto et un jeune garçon de 5 ans sont morts sur les champs, rapporte la police des circulations routières. Le chauffeur de la Jeep et un autre passager ont été grièvement blessés et acheminés dans un centre hospitalier. Pris de colère, les motocyclistes ont incendié la Jeep. Le mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou indique que les routes de Kalemie sont muettes et cela constitue un danger pour les usagers de la route. Nathan Mugisho est le président de cette structure citoyenne.
D'aucuns ignorent que la politique de sécurité routière au Tanganyika continue à poser problème. On n'a aucun panneau de signalisation le long du boulevard Lumumba, le long du boulevard Jikaka, qui peut indiquer aux conducteurs si et là qu'il y a danger ou pas. Les cas d'accident ne cessent de se multiplier.
Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. La journaliste palestinienne Bouchra Al-Tawil, emprisonnée en mars 2024, fait partie du premier contingent des 90 détenus relâchés dans la première phase de cette trêve. Son père est encore prisonnier, rappelle-t-elle, avant d'ajouter « Mais je viens de recevoir la bonne nouvelle qu'il sera relâché dans le cadre de cet accord ». Quelques 1900 Palestiniens doivent être libérés au total au cours des 42 prochains jours de cessez-le-feu contre 33 otages israéliens retenus à Gaza par le Hamas.
L'invité.
La République démocratique du Congo doit rattraper son retard dans l'exploitation des nappes pétrolières partagées avec l'Ouganda et le Rwanda. L'appel est de Moïse Aliéguera, chargé d'études au pôle juridique du ministère congolais de l'Environnement. Pour lui, Kinshasa reste inactif alors que ses voisins affichent des ambitions démesurées dans l'exploitation de ses ressources communes. C'est le cas de l'Ouganda qui exploite déjà son pétrole au niveau du lac Albert alors que le Rwanda prévoit de tirer profit des 13 blocs pétroliers découvert dans le lac Kivu. Moïse Aliéguera, notre invité, s'entretient à ce sujet avec Ronéline Tibonera.
Maître Moïse Aliéguera Nyakulinda, bonjour.
Bonjour, monsieur Ronéline.
Vous êtes motivé aujourd'hui d'interpeller le gouvernement congolais autour de l'exploitation du pétrole dans le lac Albert par l'Ouganda. Et d'autre part, vous êtes également intéressé à la question de la découverte de 13 blocs pétroliers dans le lac Kivu par le Rwanda. Qu'est-ce qui servirait de motivation de votre côté?
D'abord, ces nappes pétrolières sont partagées entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda dans le lac Albert. Et dans les lacs Kivu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et donc, les nappes pétrolières, une fois que ces deux pays vont installer leurs pompes dans le fond de ces deux lacs, le pétrole qui s'y trouve passera par la capillarité et lorsque la République démocratique du Congo voudra exploiter ces nappes pétrolières, nous risquerons de ne rien trouver dans les bassins de ces deux lacs, notamment le lac Albert et le lac Kivu. Voilà la motivation principale qui me pousse aujourd'hui d'interpeller les gouvernements congolais.
Mais est-ce que c'est un problème si les Rwanda et l'Ouganda peuvent mettre de moyens pour exploiter leur pétrole dans leurs différentes entités?
Bon, c'est vrai que ce sont des États souverains, mais notons que ces nappes pétrolières sont partagées et il n'y a pas une limite dans les sous-sols. Et lorsqu'ils vont installer leurs pompes, la pression de leurs pompes va tirer. Auparavant, ces nappes pétrolières à une piscine. Lorsqu'on veut vider les eaux d'une piscine, il suffit que le premier dispose de tout le matériel pour le vider et tous ces eaux seront vidées. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement de veiller surtout aux intérêts économiques du pays.
Récemment, plusieurs organisations de la société civile se sont levées pour fustiger tout projet allant dans le sens de l'exploitation du pétrole dans cette zone au motif de protéger l'environnement. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part votre demande ou votre appel ne soit pas en contradiction avec les efforts déployés par les acteurs qui défendent des questions environnementales?
La société civile et les chefs coutumiers à ces stades doivent privilégier les intérêts de la République. Parce que la CDPI, il y a aussi la société civile, il y a les chefs coutumiers. Pourquoi ils ont accepté à leur pays d'exploiter les nappes pétrolières de ces deux-là? Parce que justement, ils ont privilégié les intérêts économiques de leur pays. Nous aussi, nous devons nous comporter à priorité de notre pays. Parce que si nous n'acceptons pas aujourd'hui au gouvernement congolais d'exploiter ces nappes pétrolières, alors ces deux pays vont prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque nous allons maintenant nous engager à exploiter, nous n'y trouverons absolument rien. La société civile, les chefs coutumiers doivent se mettre d'accord avec les gouvernements sur les différents projets d'exploitation de ces nappes pétrolières.
Et quels sont les dividendes que la République démocratique du Congo peut tirer de l'exploitation de ces nappes, tenant compte également de cette question environnementale qui est à la une?
Bon, nous avons d'abord la croissance économique. Vous savez, quand nous exploitons nous-mêmes, nous allons vendre. Ça va augmenter l'économie de notre pays. Deuxièmement, ça va créer des emplois pour le jeune. Vous savez que dans notre pays, nous avons un taux élevé de chômage. Cette exploitation va évidemment créer des emplois pour nos jeunes. Troisièmement, nous-mêmes, nous allons élaborer des mécanismes de préservation de notre environnement.
L'exploitation du pétrole, là je fais référence par exemple à l'implantation des usines, demande des milliards de dollars. Pensez-vous que la République démocratique du Congo a des moyens suffisants pour se lancer dans l'exploitation du pétrole?
Un gouvernement ne peut jamais manquer de moyens. S'il manque de moyens, nous avons des partenaires. On peut signer des partenariats avec des sociétés qui œuvrent dans le secteur de l'hydrocarbure pour engager cette exploitation. Donc un gouvernement ne peut jamais manquer de moyens. Si nous avons aujourd'hui la capacité de se doter des budgets de milliards de dollars.
Moïse Aliegera Nyakulinda, vous avez cette volonté de voir les choses changer. Quel est le dernier message que vous pouvez envoyer aux autorités de la République démocratique du Congo face à ces retards que nous enregistrons dans l'exploitation du pétrole?
D'abord, je demande au gouvernement de la République de planifier et de commencer l'exploitation des nappes pétrolières du lac Albert, à Ituri et du lac Kivu au nord Kivu. Et là, va préserver nos intérêts économiques et sauvegarder notre environnement. Deuxièmement, nous sommes dans le processus d'adhésion à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Et donc, je demande à la République d'accélérer ce processus parce que c'est avec cette adhésion que nous pouvons analyser sur quelle base de compétences saisir, par exemple, la Cour internationale de justice pour trancher les litiges qui découlent de cette exploitation parce que déjà nous sommes en retard.
Moïse Aliegera Nyakulinda, Radio Okapi, vous remercie.
Merci, Monsieur René.
Le chargé d'études au pôle juridique du ministère congolais de l'Environnement répondait aux questions de Ronéline Tibonera. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Bayat Chamara.